Et ça, du coup, ça me permet de dire aux familles, si vous avez besoin, n'hésitez pas à anticiper ça parce que... parce que de mon côté, j'ai quand même vécu une dépression prénatale, puis une psychose du postpartum avec des hallucinations et tout, c'était vraiment hard. Pour un deuxième enfant, si un jour j'en ai un, j'anticiperai différemment, ouais, quand même.
Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi-même ?
Mon métier, il me redonne confiance en moi et en mes compétences. Beaucoup. Parce que malgré la haine des doulas qu'il y a en France, notamment malheureusement de la part de beaucoup de professionnels en maternité, je prépare beaucoup en amont, je suis très rigoureuse, j'ai beaucoup de connaissances, je suis très formée et j'ai vraiment l'intention la plus sincère d'apporter aux personnes ce qu'elles ont besoin, tant que c'est dans mon champ de compétences, bien sûr.
Alors au-delà de ton métier, tu portes aussi des engagements forts et des projets qui te tiennent à cœur. Tu es membre et fondatrice d'une association. Laquelle et pourquoi cet engagement ?
En vrai, je suis membre de plusieurs assos, parce que j'ai pas que Autium. Notamment, je fais partie de l'AFMAN, du CMDN, du collectif des maisons de naissance. Tu sais, du coup, je suis plus la vice-présidente du tout, mais je me suis réinvestie en tant que membre pour suivre le projet, essayer de le soutenir comme je peux. Mais ça, c'est seulement, tu vois, à l'échelle de soutien et de spectatrice. Par contre, ce dont je pense que tu souhaites qu'on parle, c'est que j'ai créé une association en juin 2024 qui est porteuse de projets en faveur de la transmission du savoir, qui s'appelle Autium. Et Autium, c'est vraiment une asso qui porte différents axes, donc un soutien et des collaborations avec des projets préexistants qui correspondent à nos valeurs. La création d'une école alternative donc, qui s'appelle les chemins d'Autium, idéalement de plusieurs établissements alternatifs qui prônent du coup la prévention des violences éducatives ordinaires et de l'école du dehors, donc du cycle 0 au cycle 5, sachant que le cycle 1 c'est la maternelle qu'on essaye là de créer dès que possible sur l'agglo de Rouen. 5 étant justement le point suivant, c'est-à-dire des formations, parce que du coup le cycle 5 c'est pour les adultes, dont une que j'ai créée qui est obligatoire pour les professionnels au sein de LCDO, donc LCDO c'est les chemins d'Autium, pour les professionnels qui y seront, pour être un peu plus sûr que toutes les valeurs sont bien au clair. Des ateliers à thème aussi, on propose avec l'asso à destination du privé et du public, basés sur nos domaines de compétences. Donc moi du coup maintenant vous les connaissez, d'autres personnes de l'association ont d'autres domaines, donc ça peut être assez varié. Et d'ailleurs si jamais vous en avez, que ça vous intéresse de proposer des ateliers, on va dire en adéquation avec nos valeurs, vous pouvez contacter Autium sans problème sur Insta, par mail, tout ce que vous voulez. Et puis la création d'un salon de la famille qui est le projet donc de Clémence, ma collaboratrice. Moi, je porte ces engagements pour les mêmes raisons que j'ai le parcours professionnel et scolaire que j'ai, pour les enfants, comme d'habitude, pour leur permettre de grandir dans un monde informé et dans une France qui ne les déteste pas, ou du moins un peu moins qu'actuellement.
Pour revenir à ton projet d'école maternelle inclusive, d'où est née cette idée ?
Plutôt un école maternelle alternative, pas trop inclusif, en mode c'est pas exactement la même chose parce que je suis pas spécialisée dans le handicap par exemple, donc je tenais bien à le préciser. Cependant effectivement nos pros ils seront formés aux neurotypies tu vois, mais c'est pas l'essence même du projet. Ce projet il se veut surtout attentif aux besoins fondamentaux de l'être humain, particulièrement des enfants, avec des adultes qui seraient sensibilisés au VEO et à leur prévention, tout en proposant une pédagogie du dehors. Cette idée, elle me trottait dans la tête depuis plusieurs années, même avant la création de l'asso, mais elle est devenue urgente avec l'arrivée de mon enfant, forcément.
Et c'est quoi la différence avec d'autres projets pédagogiques alternatifs tels que Montessori ?
Tout simplement que nous, on n'est pas une école monopédagogie. Tu vois, Montessori, c'est une pédagogie qui peut être d'ailleurs trop cool. Mais nous, on n'est pas genre 100% Montessori. Notre projet des chemins d'Autium, il repose sur une approche multipédagogique. Donc, on utilise le socle commun de l'éducation nationale comme base pour que les enfants, ils aient pas de retard d'acquis, quoi que ce soit. Puis, de toute façon, c'est officiel. Mais si tu veux, quand j'ai créé l'ingénierie pédagogique, j'ai vraiment pris les programmes des Duscol. Enfin, c'est vraiment très réglo, quoi. On n'est pas sur un truc sectaire où les enfants vont être perdus s'ils sont remis dans le public. C'est pas ça du tout. Et par contre, on utilise pour l'appliquer le meilleur, selon moi, hein, bien sûr, et moi, ma petite expérience, mais ce serait à faire valider par des professionnels, bien sûr. Le meilleur de plusieurs courants, donc Montessori notamment, mais Freinet, De Croly, Reggio Emilia aussi. Et l'une de nos grandes particularités quand même par rapport à ce qu'il y a actuellement à Rouen, c'est qu'on serait une école du dehors, donc un peu sur un type de modèle forest school. Donc on serait pas sur tous les jours H24 dehors, parce que déjà on est sur des tout petits et qu'on est en Normandie. Mais on passerait quand même une grande partie de notre temps extérieur pour sensibiliser les enfants à l'écologie aussi, à la biodiversité de manière concrète, pour qu'ils puissent voir les choses. Au-delà du programme scolaire classique qu'on va forcément respecter, on va un peu y intégrer des apprentissages supplémentaires utiles à la vie de tous les jours, comme le fait de parler deux langues, la LSF aussi, notamment la LSF d'abord, la langue complétée parlée, donc LCP, la langue avec pour les petits. Et enfin, notre posture, c'est vraiment celle d'un traitement d'égal à égal. Bien sûr, on est les garants de la sécurité des enfants. On va cadrer, guider, parce que c'est sécurisant, en fait, pour l'enfant, que c'est notre rôle, notre devoir même. Mais on va les considérer et les respecter comme des êtres humains à part entière. En psychologie, on appelle ça le mindedness. Et c'est quelque chose qui est assez peu appliqué, malheureusement, en France. On va avoir une éducation qui va être poussée au consentement aussi, forcément, et au respect des limites de chacun, des besoins, d'empathie. Tu sais, ça va un peu plus loin quoi, que ce qui est proposé actuellement.
Ça ressemble un peu aux propositions qui existent dans les pays nordiques.
Oui, on a effectivement des inspirations sur des modèles suédois. Oui, ouais, tout à fait.
C'est toi qui serais la maîtresse ?
Non, moi j'ai fait que une L1 de sciences de l'éduc, donc en fait je peux pas prétendre selon moi à ce poste, et j'aime beaucoup l'idée de travailler en amont avec les parents en fait. Donc à la limite je pourrais proposer des ateliers sur des sujets bien précis qui sont dans mon champ de compétences. J'ai créé l'ingénierie pédagogique parce qu'actuellement c'est moi qui suis seule dans le projet, donc il fallait bien que je commence par quelque chose, j'ai fait ce que j'ai pu, mais l'idée c'est de recruter une directrice hein, ou un directeur enseignant-enseignante qui reprennent ce que j'ai fait, qui le mettent à leur sauce, et c'est pas moi qui vais offrir les cours, non.
Cette école va s'adresser à tous les enfants ou à un type d'enfant en particulier ?
On aimerait à tous les enfants, mais il faut être réaliste, objectif, un peu lucide sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et on sait que malheureusement, ça restera accessible que à certaines familles, à cause du fait qu'on n'a aucune aide de l'État, vu qu'on est en auto-fonctionnement. Donc c'est les familles qui permettent que ça existe. Il faut bien payer les profs, les locaux, machin, tout ça. Et forcément, certaines familles en sont exclues, et ça me pose problème, moi, personnellement.
Par exemple, les troubles du neurodéveloppement sont diagnostiqués en général après 6 ans, mais on a quand même quelques signes dès la tendre enfance. Est-ce que ça peut être mieux pour ces enfants-là, ou justement déconseiller ?
Déconseiller, non. J'ai la conviction personnelle que les enfants seraient mieux dans ce type d'école, notamment au regard du fait qu'il ne serait pas assis sur une chaise, qu'il n'y a pas de punition.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI, 11h en temps universel, 13h à Paris. Et tout de suite, RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde, 2h30 ensemble avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux pour parler aujourd'hui encore de la situation au Moyen-Orient. Pas vraiment d'issue en vue malgré un nouveau revirement de Donald Trump et des pressions de la Chine pour mettre fin au blocage du détroit d'Ormuz. On y revient dans un instant dans le journal. Cette guerre au Moyen-Orient est en train de coûter cher en popularité à Donald Trump, mais pour le moment ce sont bien ses candidats qui s'imposent lors des primaires au sein du Parti républicain en vue des élections de mi-mandat de novembre. Des candidats qui promettent de redécouper la carte électorale républicain et démocrate s'y livre dès que possible en prévision du scrutin. Et on en parlera dans la dernière partie de notre émission juste après le journal de 13h, temps universel. Avant cela, on évoquera un changement de terme qui ne passe pas inaperçu dans la nouvelle constitution de Corée du Nord. Détail dans un instant, puis analyse dans un peu plus d'une heure avec notre invité.
RFI Midi.
Nous reviendrons également sur cette nouvelle attaque sur les rives du lac Tchad. 24 militaires tués par Boko Haram, selon les autorités. Dans Afrique Midi, on essaiera de comprendre pourquoi cette zone est si importante pour le groupe armé et pourquoi les soldats tchadiens ne parviennent pas à venir à bout du mouvement djihadiste. Au sommaire également, une loi française unique au monde, celle qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Elle a 25 ans et pour l'occasion, nous irons à la rencontre de ceux qui cherchent à savoir ce que leurs ancêtres ont fait pendant les 4 siècles qu'a duré la traite négrière.
Alors bien évidemment, j'ai d'abord recherché mon aïeul, je l'ai repéré et la base est assez précise pour dire combien d'esclaves il possédait et le montant d'indemnisation. Là, j'ai la certitude de faire partie des héritiers de l'esclavage.
Héritage lourd à porter, vous l'entendrez dans le reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première dans 3 quarts d'heure. Et puis faut-il le rappeler, il y a du foot à suivre aujourd'hui, 2e demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG se déplace sur le terrain du Bayern Munich après sa victoire 5-4 à l'aller pour une place face à Arsenal en finale. On appellera notre envoyé spécial à Munich dans un quart d'heure. Vous avez le programme. Bienvenue. Et pour commencer le journal, bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est en visite à Pékin.
Oui, il s'est entretenu ce matin avec son homologue chinois, l'occasion pour Wang Yi de réclamer à nouveau l'arrêt complet des hostilités au Moyen-Orient et d'appeler les États-Unis et l'Iran à rouvrir le plus vite possible le détroit d'Ormuz. C'est une urgence pour la Chine. La Chine, on le sait, lourdement impactée par le blocage. Plus de la moitié de ses importations de pétrole provient du Moyen-Orient et transite par ce point de passage stratégique. Pignède. Bonjour.
Bonjour.
C'est aussi une urgence pour l'Iran, dont l'économie dépend largement de ses exportations d'hydrocarbures.
Oui, Pékin et Téhéran partagent le même objectif, rouvrir le détroit d'Ormuz, mais surtout pas au prix d'un mauvais accord avec les États-Unis. Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l'IFRI.
pour les intérêts de Pékin, il ne faut pas que l'Iran accepte absolument n'importe quoi, puisqu'il y a quand même aussi un enjeu de rapport de force, d'équilibre des puissances au Moyen-Orient. Et donc, de ce point de vue, vis-à-vis des États-Unis, la Chine soutient l'Iran. Mais en revanche, on a vu ces dernières semaines que la Chine aussi appelait l'Iran à débloquer le détroit. Le problème, c'est que le détroit, aujourd'hui, il est plus seulement bloqué par les Iraniens, mais aussi par les Américains.
Noé, la Chine se rêve en arbitre entre Washington et Téhéran.
Oui, mais officiellement, pas question pour Pékin d'influencer son allié iranien.
La Chine dit d'elle-même qu'elle est une puissance qui n'interfère pas. Elle dit la même chose sur la Corée du Nord, elle dit la même chose sur la Russie. De toute façon, l'Iran et la Chine se tiennent, puisque certes, la Chine voudrait réouvrir les approvisionnements de pétrole qui vient en bonne partie d'Iran, mais pas que, hein, qui vient aussi de tous les pays de la région. Mais dans la mesure où la Chine importait jusqu'à 80% du pétrole iranien, c'est un manque à gagner décisif, voire vital, pour l'économie iranienne.
Toute la question maintenant, c'est de savoir combien de temps les deux pays peuvent tenir. Leur population voit les prix flamber, mais leurs économies sont très résilientes. Côté iranien, on a l'habitude des crises et des blocus. Et côté chinois, la diversification des approvisionnements et des sources d'énergie permet de limiter la casse. Autant d'avantages dans le bras de fer avec les États-Unis.
Merci Noé pour cet éclairage. C'était Noé Pignède. Après seulement un jour d'application du projet Liberté, Donald Trump a déjà suspendu l'opération d'escorte de bateaux dans le Golfe. Le président américain fait état de grands progrès réalisés dans les négociations et il a bon espoir qu'un accord puisse être finalisé et signé. Dans l'immédiat, la situation reste très tendue dans le Golfe. L'armateur français CMA-CGM a confirmé ce matin que son porte-conteneur San Antonio, battant pavillon maltais, avait été attaqué hier dans le détroit d'Ormuz. L'attaque a fait des blessés parmi les membres de l'équipage qui ont été évacués et soignés et a occasionné des dommages au navire, précise dans son communiqué l'armateur français. L'armée israélienne avait appelé à l'évacuation de 12 villages du sud de Liban avant de lancer des frappes sur des positions du Hezbollah. Des frappes qui ont commencé ce matin. Le Liban fait état de 4 morts dans l'est du pays.
C'est une rupture historique, mais loin d'être surprenante.
Oui, la Corée du Sud a annoncé que dans sa dernière révision de la Constitution, la Corée du Nord avait renoncé à la réunification de la péninsule. C'était pourtant son objectif officiel depuis sa création en 1948. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie suivie par Kim Jong-un à l'égard du Sud ces dernières années. Longtemps, il a considéré le Sud comme un peuple fraternel, partageant une langue, un territoire et des coutumes. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Gilles.
Désormais, Nicolas, la Constitution nord-coréenne efface toute référence à la réunification.
Oui, au revoir, réunification pacifique de la mère patrie, grande unité nationale. Des thèmes pourtant centraux dans la constitution socialiste nord-coréenne. Le mot socialiste a lui aussi été retiré du texte, tout comme les références aux grandes réussites du fondateur du pays, Kim Il-sung, et de son fils, Kim Jong-il, père de l'actuel dirigeant. Et puis, cette révision constitutionnelle précise les frontières du pays, un territoire qui s'étend de la frontière sino-russe jusqu'à la Corée du Sud, tout en évitant toute mention des différents points de tension transfrontaliers.
Et est-ce que cela traduit une hostilité envers Séoul ?
En tout cas, pour certains analystes, clairement, ce rêve commun d'unification de fraternité avait permis des rapprochements à plusieurs reprises, des déclarations amicales et Kim Jong-un a multiplié les sorties antagonistes envers Séoul ces derniers temps. Mais la Corée du Sud n'a pas été qualifiée constitutionnellement d'ennemi ou bien de pays le plus hostile, ce que craignaient de nombreux observateurs. En définissant son propre territoire, Pyongyang reconnaît aussi tacitement celui de son voisin. Cela pourrait ouvrir la porte à une coexistence pacifique dont rêve le gouvernement sud-coréen. Kim Jong-un n'a pourtant montré aucune volonté de discuter avec son voisin. Il ne cesse de diversifier son arsenal nucléaire et balistique, mais dans le même temps, le président sud-coréen Lee Jae-myung multiplie les mains tendues.
Nicolas Roca en direct dans ce journal, merci à vous. Dans l'affaire du paquebot de croisière touché par le variant mortel de la famille Antivirus, le gouvernement régional des îles Canaries en Espagne s'oppose à ce que le navire de luxe accoste dans l'archipel. Quant au vol qui devait évacuer un malade vers les Canaries, il est annulé. En Suisse, un passager qui voyageait sur ce bateau est hospitalisé à Zurich. Il a été testé positif.
Aux États-Unis, les électeurs de Californie désignent un nouveau gouverneur cette année.
Hier soir, les 7 principaux candidats débattaient en direct sur la chaîne CNN. 5 démocrates, 2 républicains qui seront opposés aux primaires du 2 juin prochain. Malgré la popularité en baisse de Donald Trump et dans cet état réputé libéral, donc la Californie, eh bien les sondages sont plutôt favorables aux républicains. Reportage à Los Angeles de Loïc Piala.
This C'est une élection locale à 4000 km de Washington, mais le nom de Donald Trump a monopolisé le début du débat.
Donald Trump est nul.
On a une taxe Trump sur l'essence à cause de sa guerre. J'ai poursuivi l'administration Trump plusieurs fois en tant que maire de San Jose.
Les cinq candidats démocrates savent ce qu'ils font. Le président américain reste un repoussoir dans un État où les électeurs démocrates sont deux fois plus nombreux que les républicains. Antonio Villaraigosa, l'ancien maire de Los Angeles, a questionné Steve Hilton, le favori républicain, en tête des sondages pour la primaire, sur un sujet toujours polémique 6 ans plus tard.
Pouvez-vous dire oui ou non qui a gagné l'élection de 2020 ?
Hilton, passé par Fox News et soutenu publiquement par Trump, n'a pas répondu, mais il a un contre-argument de poids, le bilan des démocrates au pouvoir depuis 2011.
Veut-on repartir pour 4 ans de plus avec le parti qui nous a donné les impôts les plus élevés du pays, le plus fort taux de pauvreté, le plus fort taux de chômage, le coût de la vie le plus élevé? On doit en finir avec le problème des sans-abri et arrêter de financer des fiascos comme le train à grande vitesse.
Autre atout d'Hilton, la division et le manque de charisme des démocrates. De Katie Porter, réputée pour sa défense des consommateurs, à Xavier Becerra, ex-ministre de Joe Biden, en passant par le milliardaire Tom Steyer, aucun ne séduit les foules. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
En France, la polémique bat son plein sur les profits du groupe Total Energy. Total Energy profite de la crise et le gouvernement ne doit pas céder à son chantage. Déclaration ce matin du patron du Parti Socialiste, Olivier Faure. Hier, le PDG du géant pétrolier a menacé d'arrêter son plafonnement du prix des carburants dans les stations-service en France si ses super profits étaient taxés. Ce matin, les bourses européennes ont entamé la séance sur une tendance franchement haussière, portée par les espoirs de détente au Moyen-Orient. Sur le marché du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord s'est changé à 108 dollars. Football, l'Arsenal est le premier qualifié en finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 30 mai à Budapest. Hier soir, le club londonien a dominé 1-0 de l'Atlético Madrid après avoir fait match nul 1 partout à l'aller. Son adversaire en finale sera soit le Paris Saint-Germain, soit le Bayern de Munich. 8 jours après avoir brillé au Parc des Princes, les deux se retrouvent ce soir à Munich pour le deuxième acte d'une demi-finale déjà historique.
Et puis le temps n'a pas de prise sur les légendes du rock.
Et les Rolling Stones sont là pour le prouver. L'inusable groupe britannique annonce la sortie en juillet prochain d'un nouvel album intitulé Foreign Tongues, les langues étrangères. Album dont ils ont déjà dévoilé plusieurs titres dans la tradition blues rock qui fait des Stones un groupe décidément immortel. Olivier Roche.
C'est dans une vidéo où l'on voit Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood s'amuser dans leur studio d'enregistrement que l'on découvre l'ambiance de ce nouvel album des Stones. Un mois d'enregistrement manifestement très décontracté à Londres pour une production dans la droite ligne du répertoire du groupe, du rock, du blues et un soupçon de country. Ce n'est pas à 80 ans de moyenne d'âge que les trois rockers vont révolutionner leur façon de jouer. En revanche, ils démontrent qu'en matière d'énergie, la valeur n'a rien à voir avec le nombre des années. Ils ont présenté cette nuit à New York certains des morceaux qui figureront en juillet prochain sur l'album, ainsi que la liste des collaborations. On pourra ainsi entendre la voix de leur vieux copain des Beatles, Paul McCartney, la guitare de Robert Smith, l'âme des Cure, et la batterie de Chad Smith, le percussionniste des Red Hot Chili Peppers, qui tente de faire oublier Charlie Watts. Le batteur original des Stones est décédé en 2021, mais il fait néanmoins une apparition sur l'album grâce à une session enregistrée juste avant sa mort.
Qui semble-t-il a conservé toute sa voix. Hein. Foreign Tongues, sortie prévue le 10 juillet, sortie mondiale bien sûr.
Et Gilles Moreau pour le journal. Tout de suite, c'est la fabrique du monde. Guillaume Nodin, la Chine appelle à rouvrir le détroit d'Ormuz le plus vite possible, on en parlait dans le journal. Demande aussi un arrêt complet et immédiat des hostilités entre l'Iran et les États-Unis. Malgré des tirs lundi, la guerre telle qu'on avait pu l'observer fin février n'a pas repris. Mais on ne voit pas vraiment d'issue non plus. Les négociations en coulisses ne donnent rien. et les pays impliqués dans ces discussions commencent à s'impatienter.
Oui, pas n'importe lesquels. La Chine, donc, principal importateur de brut en provenance du Golfe, qui commence à élever la voix. Pékin réclame l'arrêt complet et immédiat des hostilités. C'est le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui s'exprimait après avoir reçu son homologue iranien Abbas Araghchi. Il ajoute que l'Iran a un droit légitime à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. C'est une demande américaine que l'Iran renonce à son programme nucléaire. Cette visite intervient une dizaine de jours avant celle que Donald Trump doit rendre à Xi Jinping et qui a déjà été repoussée une fois en raison de la situation au Moyen-Orient. Une visite considérée comme très importante par les deux pays qui aimeraient sans doute que la situation soit réglée d'ici là. La déclaration d'aujourd'hui doit donc aussi être interprétée dans cette perspective.
Et le cessez-le-feu reste très incertain.
Oui, il faut quand même ne pas être trop regardant pour considérer qu'il tient, comme c'est le cas à Washington. Le général américain Dan Kane, chef d'état-major des armées, déclare que depuis l'annonce du cessez-le-feu le 7 avril, l'Iran a tiré à 9 reprises sur des navires commerciaux et saisi 2 porte-conteneurs. Il ajoute que l'Iran a attaqué plus de 10 fois les forces américaines. Il faut y ajouter l'attaque ces dernières heures contre un porte-conteneur de l'armateur français CMA-CGM, attaque qui a fait des blessés. Toutefois, ces attaques se situent en dessous du seuil justifiant la reprise d'opérations de combat de grande envergure à ce stade, dit le général Kane. Surtout, comme lundi, les Émirats arabes unis disent avoir activé hier leur défense antiaérienne pour contrer des attaques de drones et de missiles venus d'Iran, qui dément pour la journée d'hier. Des installations portuaires industrielles ont notamment été visées lundi. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, menace d'ailleurs les Émirats, qui ont normalisé leurs relations avec Israël, de se retrouver entraînés dans un bourbier.
Et pendant ce temps, la guerre des nerfs continue.
Oui, les deux pays continuent à se livrer à une bataille de communication. Tout au long de la journée d'hier, ils se sont échangés des menaces. Les États-Unis laissent cependant une porte largement ouverte. Le Pentagone, par la voix du secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, explique que son pays ne cherche pas la confrontation, même s'il est prêt à utiliser une force dévastatrice si l'ordre est donné par le président. Et si des navires américains ou des navires commerciaux sont attaqués, le président Donald Trump a suspendu donc l'opération d'escorte militaire des navires commerciaux pour laisser une chance à un éventuel accord. Les responsables de l'administration américaine parlent volontiers d'un après qu'ils aimeraient manifestement voir arriver le plus vite possible, que ce soit
pour un accord.
Le mix des cultures.
Le mix de toutes les cultures.
À écouter, à répéter.
Radio HDR.
C'est sur le 99.1 FM.
Sur le 99.1 FM.
Je vais écouter.
Très bien.
Yeah, he, this court is now in session. His Honor, Judge Pigmeat Martin Poseidon. Yeah, he, the court of swings is just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line, or this court is neat. Peace, brother.
Uh-oh, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge.
Judge, your honorship high, sir. Did I hear you say order in the court?
Yes, I said order.
Well, I'll take 2 cans of beer, please.
Remember me?
No, who are you, boy?